rencontrer des gens sympathiques et de goûter à notre bonne cuisine? La Baratte, organisme pour la sécurité alimentaire et l'insertion sociale, est à la recherche de bénévoles en cuisine et pour la livraison des repas de la popote roulante. Joignez-vous à nous pour vivre une expérience de bénévolat plus qu'enrichissante. Téléphonez au 88 527 1173 ou visitez labaratte.ca.
Le Kaléidoscope, c'est le magazine radiophonique à Québec qui vous en fera voir de toutes les couleurs. Les lundis à 18h, plongez dans l'œil de la diversité sexuelle et de genre et découvrez l'éventail des textures et des nuances qui reflètent les réalités des communautés LGBTQ+. Un animateur passionné et des invités allumés vous offriront une palette de rubriques sociales, culturelles et politiques au rythme d'un son des plus éclectiques. Le Kaléidoscope, c'est votre espace pour faire rayonner les identités queer. Retrouvez-nous le lundi à 18h sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Bonjour, ici Aude Malaret, voici vos nouvelles du mercredi 1er juin. Dans le cadre de la semaine des paramédics et des soins préhospitaliers d'urgence, Desercom a mis en service sa nouvelle ambulance communautaire. Cette ambulance est le nouveau symbole de l'implication de Desercom et de l'importance qu'elle accorde au bien-être de nos communautés. Elle est toute équipée en cas d'urgence, toutefois, elle sera désormais utilisée exclusivement lors d'événements philanthropiques et communautaires, affirme Maxime Laviolette, directeur général de Desercom. Les paramédics qui souhaitent faire du bénévolat pourront utiliser le véhicule dans les différents secteurs de Desercom lors d'événements comme les visites d'écoles primaires, les guignolées, les événements sportifs et caritatifs ou encore les distributions de paniers de denrées ou de cadeaux dans le temps des fêtes. Festiforêt est un nouveau festival consacré à la forêt. Cette fête grand public gratuite se tiendra ce dimanche 5 juin au centre de plein air Le Saisonnier de Lac Beauport. Au programme de cette journée, mini-conférence sur la cueillette forestière, l'ornithologie, les forêts nourricières et l'histoire forestière de la Jacques-Cartier. Il y aura aussi des kiosques d'exposition, des démonstrations, des sorties guidées, un rallye éducatif emboisé, ainsi que des tirages et animations pour toute la famille. Un petit plan d'arbre sera offert gratuitement aux visiteurs. Le Conseil québécois du patrimoine vivant vient de lancer le magazine Culture Trad Québec. Ce premier numéro met en vedette les danses traditionnelles du Québec et propose des articles et des entrevues sur la danse. Attendue depuis longtemps dans le milieu du patrimoine vivant, cette publication présente également des contenus sur les différents arts traditionnels comme le conte et la musique, que ce soit sous la forme de bandes dessinées, de portraits, de reportages ou de témoignages. Les lecteurs retrouveront aussi des sujets sur le chant de gorge inuit, la musique trad à la radio, les archives audiovisuelles, la sculpture d'art populaire ou encore Riopelle et sa passion pour les savoir-faire transmis de génération en génération. Le magazine est disponible pour achat en ligne au patrimoinevivant.qc.ca et au bureau du Conseil québécois du patrimoine vivant à Québec. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Pour souligner l'occasion, l'animateur Michel Bédard vous présente une émission spéciale de 2 heures de l'émission « Les Capés ». Si la réalité des personnes handicapées vous intéresse, soyez-y ce mercredi à 15h sur CKIFM 88.3 ou encore en Facebook Live sur la page « Les Capés ». C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIFM 88.3 et CKIFM.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais...
Bonjour et bienvenue à l'émission de Jeudi Perreçu sur les ondes de CKIFM et aussi sur Facebook Live. Je m'appelle Larry Hodgson et je vous parle de la ville de Québec, de mon sous-sol, où j'ai mon bureau. Et on va parler, bien sûr, ce matin du jardinage. Et je pense que comme tout le monde dans le domaine, on regarde dehors, puis on va dehors, puis c'est-tu le temps, peux-tu, c'est-tu le temps de faire quelque chose? Parce que ça ne se réchauffe pas. pense que c'est beaucoup, mais si tu réchauffes un peu. Et ouais, regardez. Moi, je regardais. Évidemment, ce que je dis là vaut pour la ville de Québec. Pas nécessairement pour ailleurs. Mais habituellement, c'est similaire ailleurs. Vous jugez un peu. Si vous êtes dans une région plus froide que la ville de Québec, peut-être un peu plus tard, un peu plus chaud, ben voilà. Mais si je regarde Météo-Média, on indique des nuits encore fraîches, pas tous les soirs, mais en bas de 12, encore jusqu'à dimanche. Et après dimanche, on remonte. Et ça reste dans les 14-15. Écoutez, entre 12 et 14, vous dites, c'est quoi la différence? 14, c'est une journée froide à Miami. Et 12, c'est une journée de panique à Miami. C'est ça la différence. Les plantes qui aiment la chaleur sont dérangées par les températures. 12 et moins. 14, habituellement, c'est acceptable. Donc, oui, vous pouvez commencer à planter. Dans certaines régions, peut-être déjà vous êtes rendu là. À Montréal, ça se peut très bien. Hein? Puis pas le contraire. Mais je sais que chez moi, ça semblerait être au début de la semaine prochaine qu'on va pouvoir dire, OK, ça y est, je peux planter sans risquer mes petits sémillots au jardin. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il faut quand même les acclimater auparavant. Hein? Sortez pas vos sémis qui ont toujours passé leur vie sous une lampe ou à l'intérieur directement au soleil. Vous les acclimatez sur quelques jours. Et vous pouvez peut-être les planter. Vérifiez toujours chez vous. On a maintenant des services de météo partout. C'est facile de voir. Et en plus, comme ça donne 14 jours d'avance, c'est ça que je suis regardé voir qu'est-ce qu'on nous disait pendant 14 jours. Et en disant encore, pas un mois de juin très, très chaud, là, mais quand même un mois de juin acceptable pour la plantation. Donc, on peut dire, parce que normalement, dans ma région, quand je fais mes semis, je calcule une date de plantation, voilà, 10-11 juin. Habituellement, dans mon coin, c'est pour la partir de là où on a assez de chaleur pour le faire. Et là, on parle de 6 juin à peu près. Bon, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal dans le normal pour la saison, autrement dit. Mais c'est quand même bien de pouvoir décharger nos bords de fenêtre un petit peu et mettre nos semis à l'extérieur. Donc, acclimatez encore, mais n'oubliez pas, c'est un lance 12 degrés au moins la nuit. C'est toujours. Toujours quelqu'un qui veut se donner un peu de chance, couvre le sol le jour pour que ça chauffe un peu plus. Même une couverture flottante. Placé sur le sol, ça va faire chauffer le sol un peu plus de façon à ce que les plantes reçoivent un peu plus de chaleur une fois que vous avez fait la plantation. Donc voilà, presque rendu. On peut sérieusement penser à repiquer nos semis dans quelques jours. On est presque rendu là. Voilà.
Est-ce qu'on serait rendu à des questions?
Question, Michel. Oui, merci.
Je te voyais un peu chercher où on en était. On en est rendu avec une question d'Isabelle Carignan, qui est de Sudbury, en Ontario. Elle écrit, selon vous, est-il trop tôt pour planter mes semis dans le potager?
Pardon. Juste un peu.
On va laisser le temps à Larry de se dérhumer. Ça va?
Peut-être un peu. C'est un peu comme à Québec, vous êtes un peu dans la même situation. Nous sommes presque rendus. Je n'ai pas vu exactement pour Sudbury, mais il reste que c'est pas la même situation. Attendez que vous voyez ce météo-média 12 et plus la nuit. Et pour ma région, c'est à peu près la nuit de dimanche. Pas avant ça. Mais à vous de voir. Mais c'est presque rendu. C'est presque.
Je regarde vite fait pour Sudbury sur le site de Météo Média.
Je n'aurais même pas pensé de faire ça.
maximum la nuit, ça va être autour du. Ça ressemble à Québec, je crois, selon ce que tu dis. Parce qu'à partir du dimanche, dans la nuit dimanche à lundi ou samedi à dimanche. Ça sera vérifié comme il faut, mais tout sera en haut de 9 degrés, 10 degrés à partir de là.
Oui, mais il faut que ce soit 12 et plus.
Oui, mais c'est ça. Je vois du 12, je vois du même un peu plus haut. Et à partir du 15, donc dans d'ici deux semaines, ça sera 15 en montant, ça sera 12 en montant, ça c'est sûr, pour la région de Sudbury, en Ontario. Donc, prochaine question de Lucie Desjardins. Bonjour, monsieur le paresseux. J'ai un Taxus XI depuis 15 ans et cette année, il a roussi sur toute sa partie extérieure de la neige. Que faire? Bonne santé et longue vie à vous.
Écoutez, ça, c'est un assèchement. C'est causé par un manque d'eau dans l'hiver. L'eau n'a pas réussi à monter des racines jusqu'au à la pointe des feuilles. Et ça arrive quand il y a un vent froid et sec, trop persistant. Donc, durant l'hiver, le vent souffle, passe à travers les aiguilles, et normalement, les plantes répondent en envoyant de l'eau. Mais ça fait trop froid. Donc, c'est ça qui a causé ça. C'est pas la fin du monde. Le if va récupérer, sans doute, probablement complètement. Mais ces aiguilles-là ne verront pas non plus. Donc, après quelques temps, faites-les tomber. Vous voyez, c'est des tâches assez facilement. Il peut y avoir quelques brindilles qui sont en mesure ou moins. Couper, ça va repousser. Et en plus, le if, Taxus XI, c'est un if. Le if a la capacité de repousser même du vieux bois. Donc, c'est une plante qui récupère bien. Pas vite, mais qui récupère bien quand il y a des dommages causés par le vent assèche en hiver.
Brigitte Roy, maintenant, écrit qu'elle vient de planter un chèvrefeuille Ionicera mandarin, pardon, qui prendra un appui sur un gros chêne pour se développer. Elle dit « J'aimerais aussi y faire grimper une clématite Jackmanny. Croyez-vous qu'elle sera capable de s'agripper au chèvrefeuille? Si oui, dois-je attendre une année que le chèvrefeuille ait pris de la force avant d'implanter la clématite? »
Excellente question. Je suis pas certain que je suis à 100% raison. Mais d'abord, d'habitude, une clématite va pouvoir facilement s'agripper à justement un chèvrefeuille grimpant et ça ne nuirait pas au chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, on a vu d'autres. C'est un plant très, très solide. C'est le chèvrefeuille qu'il faut certainement fixer un petit peu d'une façon quelconque à l'arbre parce qu'il ne serait pas capable de faire le tour d'une chaîne. J'imagine que c'est une chaîne d'un certain âge. Donc, non, il ne pourrait pas. Il faudrait trouver les moyens de le faire monter à cela, mais le clématite peut monter avec. Je ne vois pas de problème de planter ça en même temps. Le chèvrefeuille est moins lent, mais plus solide que le clématite. Et moi, je penserais que ça devrait bien aller. L'important, bien sûr, c'est de tout faire pour plaire à la clématite. Elle est difficile, alors que le chèvrefeuille est facile à contenter. Donc, on va faire tout fort pour la clématite. Et bien sûr, le chèvrefeuille va profiter de cette affaire-là. Donc, un bon sol, bon drainage, arrosage régulier. Et vous devrez avoir un très, très bel effet d'ailleurs, d'après moi.
Jessica Barry, elle dit j'ai semé un plant de tomate à l'intérieur le 10 avril. Avant hier, elle a été arrosée et hier, les feuilles ont jauni. Elle est devenue toute molle. Est-ce possible de la sauver?
OK.
De le sauver.
Ça, évidemment, je ne le vois pas. Et même quand on voit, c'est pas toujours possible de deviner exactement. Mais on dirait qu'il lui est arrivé quelque chose. Ça se peut que ce soit un champignon ou une bactérie. Ça, il peut en avoir n'importe où. Et moi, j'ai peur que cet emploi soit perdu. Ça arrive. On n'a jamais un succès à 100% avec les sémis. Mais isolez-la d'autres, si vous en avez d'autres. Et vous pouvez quand même la mettre dehors dans la journée, dans un endroit protégé du vent. Des fois, ça pourrait encourager une reprise, mais si jamais les racines sont vraiment atteintes, il n'y a pas rien à faire. Pour les jeunes semis, là, il y a moins de jeu que sur une plante déjà bien établie.
On y va maintenant avec Agnès Morin-Chartrand. Pourquoi est-ce que ma lavande devient grise par l'intérieur et meurt? Est-ce que je peux la faire reprendre?
OK. Ça, c'est simplement l'effet d'avoir trop d'humidité l'hiver. Et c'est pas évident. La lavande, vous savez, dès le départ, je dis pas qu'on peut pas cultiver la lavande, mais rendre la lavande heureuse, c'est une autre histoire. C'est une plante marginale qui aimerait beaucoup mieux dans le sud de la France qu'au Québec. Donc, la plante souffre déjà. Et ce qui arrive l'hiver, c'est que il faut quand même la protéger parce que tu n'as pas le froid. Je sais, les gens disent, oh, ça pousse en zone 4. Oui, ça pousse en zone 4 parce qu'on l'a protégé. On a créé un microclimat très localisé. Mais le problème, en embellant une plante, en le recouvrant, se coupe la circulation d'air. Et cette plante-là aime avoir une circulation d'air. C'est pour ça que les feuilles de l'intérieur qui sont atteintes. C'est du blanc, en fait, qui a causé ça. Le blanc est une maladie. Multiples variantes, mais ça fait d'abord blanchir puis tomber les feuilles. Ou des fois, ils tombent sans attendre de blanchir. Mais c'est ça qui est arrivé. Il n'y a pas eu assez de mouvement d'air. Le champignon a réussi à prendre le dessus. Et voilà, vous avez un problème. La plante va quand même récupérer. Maintenant qu'il n'y a plus de protection, il n'y a plus de paillis, que la plante est au vent, ça bouge, ça devrait reprendre. Mais il reste que ça risque d'arriver encore et encore. Donc, la meilleure façon que je peux voir pour protéger une lavande à l'automne, ce serait de planter sur une butte pour qu'il y ait un excellent drainage, c'est certain. Au plein soleil, c'est important. Il faut avoir une circulation d'air l'hiver. Donc, vous le recouvrez avec quelque chose de léger, mais qui coupe le vent. Par exemple, des aiguilles de pin. C'est excellent, ça coupe le vent, c'est très aéré en même temps. Ou encore, vous pouvez le couvrir avec une feuille de protection. J'oublie le nom du produit. En tout cas, qui est léger et blanc, géotextile protecteur, mais aéré. Pas quelque chose qui est plastifié, qui garde complètement l'humidité à l'intérieur. Tant qu'il faut que l'air bouge, là, vous pouvez avoir plus de succès. Ou évidemment, l'autre possibilité, c'est de déménager dans le sud de la France où la plante va bien pousser. Mais en tout cas, c'est peut-être un peu exagéré.
Il y a Alain Boulay qui écrit que l'an dernier, au 10 juin, il dit qu'il a planté, mais ses trucs ont gelé dans la région de Québec un 10 juin.
Ça ne me surprend pas. Moi, je planifie. Quand je fais mes semis, et là, je parle de mois de mars, mois d'avril, je calcule à peu près quelle date je pense pouvoir le repiquer en pleine terre. Et là, je recule. Supposant que je dois porter ça 6 semaines à l'avance, voilà, je recule. Donc, moi, je prends toujours le 10 ou 11 juin comme date. Mais ça ne veut pas dire que ça marche parfaitement. Il y a des années où il fait encore froid le 10 juin et je dois retarder encore mes plantations. 3 années de fil, là, que je dois retarder. Ce n'est ici, non. Et donc, c'est comme si on revenait à la normale. Mais quand même, cette date-là est une date hypothétique, si on veut. C'est la date que je voudrais que ce soit. Et ce n'est pas toujours réalisé. Donc, oui, le gel à Québec, il peut en avoir encore plus tard que ça. Hein. On n'est pas dans une zone. Moi, j'ai vu du gel dans ma courte vie. J'ai 67 ans. J'ai vu du gel dans tous les mois, sauf au mois de juillet. Tous les mois. Donc, on ne sait jamais.
Tout à l'heure, on a eu une question de Lucie Desjardins. Et elle précise maintenant qu'elle est en zone 4B et c'est le premier hiver que ça arrive. Je ne sais pas si tu te rappelles la question. C'était à propos du Taxus XI.
Oui, il devait avoir quelque chose de spécial. Moi, j'ai eu aussi des problèmes et je ne peux pas toujours dire pourquoi. J'ai eu un pain qui était lourdement dommagé, qui a souffert cet hiver, qui est là depuis au moins 15 ans. Que jamais rien eu dans le passé. Et théoriquement, c'est correct. Et j'ai eu plusieurs autres qui ont des dommages. Donc, il y a quelque chose que les plantes n'ont pas aimé cet hiver. On a eu du froid, beaucoup de vent, hein? Beaucoup de vent, pas tant froid. Peut-être ça qui est arrivé. Mais c'est quand vous voyez un grossissement des aiguilles d'un conifère, c'est vent asséchant. C'est le vent asséchant qui fait ça. Il y a quelque chose qui est arrivé qui n'a pas plu à la plante.
Maintenant, donc, on va y aller avec Louise Messier-Luciani. Elle dit qu'elle a des gros arancus, entre parenthèses, barbe de bouc, Comment les diminuer sans les affecter, entre parenthèses encore, les tuer? Les diviser serait une tâche monumentale. Quelle est votre opinion dans ce cas-ci?
Oh, ben d'abord, pas de boucle. Magnifique plante, superbe. Florifère comme ça, je peux pas. Wow, c'est l'équivalent d'un arbuste. Mais c'est une grosse plante. Et vous ne pouvez pas faire grand-chose pour ça. C'est quand vous plantez une plante qui va mesurer, disons, facilement, 1,20 m, 1,05 m. Et c'est la hauteur normale. Elle ne ferait pas ça la première année, là, mais après 3-4 ans, elle va être rendue là. Ce n'est pas évident de prendre une plante de cette hauteur-là et de faire pousser à 1 mètre de haut. Ce n'est pas dans sa nature. Si vous coupez la tête au tout début, quand ça pousse au printemps, ça va peut-être avoir le temps de faire une plante un peu plus courte, mais ça risque d'enlever la floraison. Donc, il ne faut pas faire grand-chose. Et effectivement, cette plante-là, essayez donc d'éclairer ça. C'est terrible. Vraiment pas facile. Donc, moi, je suggère soit de apprendre à aimer l'espace que ça prend, ou encore de l'enlever. Vous êtes rendu au point où c'est l'un ou l'autre. C'est pas un arbuste. Un arbuste, on peut couper et ça repousse tout par du bois. Ça prend là pas du sol, une vivace. Donc, faut vivre avec cette plante-là pour lui donner de l'espace. C'est une belle plante, mais elle est énorme.
On va continuer avec la question de Thierry Lavallée. Comment réduire les mauvaises herbes dans les laitues? Mesclune se met en rang.
Oh! Un des problèmes du mesclun, c'est qu'il faut reconnaître qu'est-ce qui est une mauvaise herbe et qu'est-ce qui est comestible. Parce que mesclun, vous comprenez, ça vient de mélange. C'est un mélange de séries. Donc, il y a les laitues là-dedans, il peut avoir la roquette, il peut avoir d'autres choses. Donc, il faut savoir lequel et lequel. Mais la seule façon, c'est d'aller à l'œil. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez difficilement sortir parce que un mesclun, vous le semez en gros quoi, une dalle, et c'est pas évident de sarcler ou quoi que ce soit. Donc, il faut aller arracher les semis, on va espérer que c'est des semis, les semis des mauvaises herbes, une à la fois. Et d'ailleurs, si par hasard, un des semis, c'est un pissenlit, bon, c'est pas grave, ça se mange aussi.
Prochaine question de Joanne Demers. Elle dit, au jardin communautaire, il y a un mûrier venant du jardin de ma voisine qui a poussé à travers mes rhubarbes. Est-ce que ceci sera dommageable pour ma rhubarbe? Dois-je le déterrer?
Oh non, il n'y a pas grand-chose qui va déranger une rhubarbe. Mais ça va déranger, c'est pas le mot, qui va tuer une rhubarbe. Miner sa production, oui, ça se peut avec le temps. Une seule tige, non. Mais vous savez que c'est une plante très envahissante, le mûrier, le ronce. Théoriquement, il ne devrait pas en avoir dans un jardin communautaire. C'est pas une plante pour un emplacement limité. Le mûrier ne devrait jamais être protégé. C'est une plante à planter à part, loin de toute chose. Parce que sinon, elle envahit tout et elle cause des problèmes. Donc, moi, je ne laisserai pas faire. Je couperai tout simplement la tige actuelle et au moins vous allez avoir quelques ronces. Mais ne laissez pas devenir trop gros. Ça va être un problème un jour.
Sylvie Durette, j'ai un Brugmansia en immense pot et j'aimerais garnir le tour du pot avec des capucines destinées à la consommation. Puisque toutes les parties du Brugmansia sont toxiques, est-ce que je devrais éviter de mettre mes capucines dans le même contenant?
Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucun lien entre, comment dirais-je, les plantes toxiques et les plantes qui poussent autour. Ça ne se transfère pas de toxicité. C'est en mangeant le Brugmansia qu'on peut s'empoisonner. Si vous avez des capucines qui poussent au pied, il n'y a pas de problème. Les seules exceptions que je peux penser, mais c'est vraiment... C'est pas ça de toute façon. Ça serait quelque chose qui a une sève toxique à l'extérieur de la feuille. Et la seule plante qui est comme ça dans le fond au Québec, c'est le Vrapis. Cette plante-là, à l'extérieur de ses feuilles, a une sève irritante qui peut aller sur des plantes en bas, théoriquement. Mais toute autre plante, non. Si le feuillage est toxique à manger, ça ne se transfère pas à une plante plus bas. Donc, non, vous n'avez pas de problème avec ça.
Thierry Lavallée, comment réduire les mauvais... Ah non, je l'ai fait tout à l'heure, celle-là. Jeannette Ouellette, d'abord quelques secondes de silence pour Rosie de Rosemary.
Ah! Expliquez ça parce que tout le monde ne comprend pas. Non, c'était... D'ailleurs, oh, j'aurais presque pu vous le montrer. Elle est encore là. J'ai dit qu'elle est morte. J'ai tout fait pour qu'elle renaisse. Mais Rosie, c'est le nom que je vais donner à ma plante de romarin qui est mort après 13 ans. Et elle reviendra pas. Mais ce qui est jardin, vous savez, on refuse d'accepter qu'une plante est morte, même comme c'est évident. Fait que je continue de le laisser là. Mais non. Non, merci beaucoup de votre intérêt. Parce que vous savez, quand on perd en plante, Michel rit, mais vous savez, quand on perd en plante, là, c'est dur des fois. Pas la personne. C'est drôle de dire, mais c'est pas un animal, mais quand même, ça, on s'y attache.
Je vais continuer avec sa question. Ensuite, une question. La voici. Un de mes sorbiers est mort, sans raison claire apparente. J'aimerais le remplacer et je trouve magnifique les Prunus X cisternea. Mais on voit souvent des spécimens rachitiques et mal en point. Est-ce une plante difficile? Pourrais-je en planter un à l'automne, je présume, entre parenthèses, à cet emplacement plein ouest semi-ombragé, entre parenthèses, donc à cause d'une immense chaîne bordant le terrain, à Trois-Rivières, zone 4B.
Bon, OK. Juste pour ça que les gens comprennent, Prunus cisternea, c'est le prunus des sables qu'on appelle à feuilles pourpres. C'est très coloré. Les feuilles sont pourpres tout l'été. Donc, une très belle couleur. Ça fait des toutes petites fleurs roses et pas en grande quantité au printemps. Mais c'est vraiment pas l'effet qu'on a cultivé. Cette plante-là est très sujette aux maladies. Elle a été développée dans les prairies. C'est une plante canadienne, quand même. Développée dans les prairies au Saskatchewan, où c'est toujours sec. Et on l'a transplantée ici en pensant, ça va bien. Si ça va bien à Saskatoon, ça peut aller n'importe où. C'est un peu près ce que les gens ont dit. Est-ce qu'à ce que tout le c'est comme, il ne faut pas imaginer un pire climat que ça. Sauf que, ce n'est pas nécessairement le climat, c'est l'humidité. C'est humide ici, et l'air est sec là-bas. Et les maladies sur cette plante-là sont assez terribles. C'est pour ça que vous dites c'est rachitique. C'est que certaines branches meurent, d'autres vont mal, d'autres réussissent. En coupe, ça repousse, ça meurt encore en coupe, en repousse. Donc, on passe notre temps à la tailler de façon indirect, et ça fait une plante qui n'est jamais très, très jolie. C'est pour ça que cette plante-là est magnifique, mais... Donc, moi, je suggère d'essayer d'autres choses que ça, parce que vous aurez toujours un problème. Vous pouvez planter maintenant, d'ailleurs, en passant. Hein. Une plante en pot, mais en plus, en pot. Il n'y a pas de raison pour ne pas le planter maintenant. Ce n'est pas un problème, mais c'est vraiment... j'aurais peur que vous soyez déçus par le comportement de la plante. Parmi des feuillages propres plus solides, il y aurait par exemple des physocarpes, peut-être pas les très, très grosses, vous pouvez embarquer dans une énorme variété, mais quelques physocarpes propres foncés sont quand même très bien au soleil et à la mi-ombre sont jolies, peut-être un peu moins colorées, ça pourrait convenir. Les berbéris, le couronne d'épines, pas couronne d'épines, et puis les nets, je m'excuse. Il y a des propres là aussi qui pourraient être intéressantes. Donc, je trouve avec un beau feuillage foncé semblable, mais qui n'a pas des gros problèmes comme le premier système. Voilà.
Margot Morin qui dit qu'elle a beaucoup de difficultés à faire pousser des haricots jaunes. Pourquoi? Mes haricots verts ont déjà 6 pouces de hauteur et les jaunes ne sortent pas ou très peu. Merci de me répondre.
Bon. Là, je ne sais pas. Vraiment, c'est le genre de... Et ça arrive, quand vous jardinez, hein, vous voyez toujours des choses comme ça. Et il n'y a aucune explication. Mais vraiment pas. Parce que si un haricot vert réussit, pourquoi pas le jaune, qui est juste une variante de la même plante. C'est comme si vous dites, je suis capable d'élever les chihuahuas, mais je ne suis pas capable d'élever une caniche. Ben oui, mais c'est la même chose, en fond. C'est que je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe. Presque la vérité en question, parce que vous savez qu'il y a des dizaines de variétés d'haricots nains à gauche verte et d'autres autant à gauche jaune. Et chacune a quelques petites différences. Peut-être que pour des raisons quelconques, cette variété-là est moins bonne. Peut-être que les semences sont plus vieilles. Puis on sait que les semences perdent leur pouvoir germinatif peu à peu avec le temps. Mais sinon, bon, écoutez, profitez de vos haricots verts, ressemez d'autres parce que c'est pas trop tard. Les jaunes, c'est une autre vérité. Moi, je dirais, là, c'est une autre vérité l'an prochain, tout simplement.
Denise Bourassa, qui écrit « J'ai mon bon vieux Jade de 30 ans qui ne va pas bien. Ses feuilles se flétrissent, sèchent et tombent. Habituellement, c'est parce qu'il a soif, mais là, ce n'est pas le cas. Il a subi une très bonne transplantation étaille il y a 2 ans. Donc, en principe, c'est OK de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? »
Wow! OK, ça, c'est pas une bonne chose. Normalement, quand vous voyez une plante réagir comme ça, une plante bien établie, c'est la pourriture. Et la pourriture qui s'est installée, et pourquoi, on ne sait pas. Mais la pourriture, c'est pas évident à guérir. Moi, je dirais d'ailleurs, sans trop tarder, aller prendre des boutures. Boutures de tiges, si les tiges paraissent encore bien. Boutures de feuilles, si les tiges sont pas bien. Et il faut repartir un nouveau plan. Mais non, c'est pas bon signe, ça. Quand un plant dépérit de façon généralisée comme ça, quelque chose qui ne va pas. Donc, un champignon quelconque qui a réussi à atteindre les racines ou encore l'intérieur, la plante est en train de faire ses ravages.
Et donc, maintenant, la question de Sébastien Morand. Est-ce possible d'avoir l'heure juste sur la zone de rusticité du gagné du Canada? Je suis dans la région de Saint-Hyacinthe. Vos meilleurs conseils sont toujours les bienvenus.
Et le gagné du Canada, c'est G-A-I-N-I-E-R.
G-A-N-I-E-R.
Oui, mais il manque un I là-dedans.
OK. Alors,
cette plante-là n'est pas très, très rustique. Hein? Ce n'est pas à qui vous parlez, bien sûr, mais ce n'est pas une plante qui est vraiment rustique à Saint-Hyacinthe, à peu près pas. C'est certain que cette plante-là est capable de survivre, mais de vraiment profiter, je ne suis pas certain. Cercis canadensis, c'est son nom latin. C'est une plante qui, dans la nature, pousse jusque dans le sud de l'Ontario. Le sud de l'Ontario, c'est zone 7. On le pousse un peu, puis on réussit en zone 6. Mais de là, la zone 4, là, je ne suis pas du tout certain que ça marche bien. Alors moi, je dirais de faire attention. Je ne dis pas que seulement quelqu'un réussit en zone 4. Ça arrive, hein, à certains endroits bien protégés. Mais moi, je dirais, il faudrait vraiment penser que même en zone 5, bien, même à Montréal, cette plante-là ne donne pas toujours succès. La vraie zone de cette plante-là que je connaisse, c'est la zone 6B. Donc, c'est style complètement de frontière américaine ou c'est dans le sud de l'Ontario. C'est là où on pourrait cultiver cette plante-là sans trop de difficultés. Ailleurs, c'est de l'expérimentation. Et c'est d'ailleurs pas n'importe quel magnifique. Elle fait des fleurs roses en forme de pois et il n'y a pas de feuilles encore. Fait que c'est magnifique. C'est un petit arbre. Un arbre qu'on peut dire indigène, puis ça pousse naturellement au Canada. Mais on n'a pas encore une vérité assez rustique. Je sais qu'il y a un programme il y a des années pour se développer des gagnés du Canada plus rustiques. Il se trouve qu'il y a une petite colonie dans la région de Guelph, en Ontario. La Guelph, c'est quand même pas zone 4B, mais c'est zone 5B. Donc, autrement dit, une population naturelle qui réussissait tout seul en zone 5. Puis à partir de là, on aurait peut-être pu faire des semis, faire des sélections et faire des plantes adaptées à plus froid. Mais je n'ai jamais entendu de suite. Je ne sais pas si ça réussit ou pas. Donc, moi, je considère que c'est une plante qu'on peut mettre à l'essai, mais pas plus. Il n'y a pas de garantie que ça va réussir. Pas au Québec.
Aiden Knight veut savoir... En fait, il écrit « J'ai trouvé un trésor que je recherchais depuis des années. Les 1500 trucs du jardinier paresseux. » Il dit la question maintenant J'ai acheté 3 plants de bleuets Perpetua. Ils sont pleins de fruits verts. Je les supprime. Est-ce que je peux les planter maintenant et faire une analyse de sol plus tard et amender plus tard? Merci beaucoup.
Oh, c'est deux questions très différentes. D'abord, OK, pour être bêtement honnête, idéalement, vous ne laisserez pas faire des fruits tout de suite. La plante est dans un pot, elle va être transplantée bientôt, et transplantation, c'est un choc. Et quand elle met son énergie à faire des fruits, oh, c'est pas le moment. C'est triste, mais normalement, vous ne laisserez pas faire des fruits les deux premières années, même si elle veut. Je ne dis pas si la plante est couverte de fruits la deuxième année, c'est pas un signe qu'elle s'est bien établie. Mais là, la plante va même pas encore subir le stress d'être transplantée. Alors moi, je dirais non, il faudrait pas, faudrait les enlever. Maintenant, deuxième partie de la question. Analyse de sol plus tard et amender plus tard. Ça, c'est embêtant, hein? Parce que le problème, c'est changer le pH du sol est toujours compliqué. Donc, si vous attendez plus tard, votre plante va être établie, il faudrait faire des trous dans le sol pour acheter le produit en question. Fait qu'il faut, en tout cas, quand même, la plante serait déjà en période de stress un peu plus, peut-être pourquoi pas. Oui, d'accord, parce que c'est sûr que si vous faites ça, une analyse de sang, une analyse de sol, vous en avez pour minimum 2 semaines, sinon plus à attendre. Et je ne sais pas où je cette année, si vous savez que tout est en demande dans les centres de jardin. C'est peut-être encore pire que ça. Fait que peut-être que ce serait encore plus long que ça. Donc moi, je suggère de planter là, rajouter quand même quelque chose d'acide avec beaucoup de tourbe, en tout cas, par exemple. Ça pourrait être une pensée. Mais analysez, faites votre prélèvement d'abord et vous allez voir ce que ça va vous dire après. Voir comment et vous allez pouvoir mélanger le produit en question au sol. Parce qu'en général, nos sols ne sont pas toujours assez acides pour cette plante-là. Le bleuté est un sol vraiment très acide.
Je vais faire du pouce un peu sur la question de Aiden Knight. Tu parlais dans ta première réponse qu'il était possible d'arrêter la plante de faire un fruit. Oui. Dans ma tête, ça sonne comme si on pouvait arrêter un enfant de grandir.
Non.
Comment on arrête une plante ou de faire un fruit, par exemple?
Dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a déjà des fruits qui sont en train de mûrir et physiquement on enlève une par une à la fois. Ou en gros, peu importe. C'est vraiment comme ça physiquement. Parce qu'on ne peut pas empêcher une plante de faire des fleurs comme ça. Pour faire un produit chimique, non. On n'aurait pas là-dedans. Là. Beaucoup trop compliqué. C'est une situation où ça peut enlever les fruits de façon à ce que la plante puisse s'établir. Ça va donner une chance la première année.
José René, est-ce possible de semer petits cœurs saignants vivaces qui fleurissent tout l'été? J'en perds souvent.
OK. Parce que le cœur saignant, il est plus qu'une sorte. Hein? Plus d'espèces de cœur saignant. Moi, je pense que vous voulez dire probablement quelque chose dans l'ordre de le cœur saignant du Pacifique ou la vérité luxuriance. Essayez ces vérités-là, parce qu'on a quand même quelques vérités dans lesquelles on a souvent le nom king ou queen ou des mots de royauté. Ils ne sont pas aussi solides que d'autres. Retournez un petit peu en arrière, une autre étape, les vérités comme ça, là. La vérité du Pacifique, ça, c'est une espèce qui devrait très bien passer l'hiver. Ça ne mourrait sûrement pas. Hein. C'est une plante bien, bien solide. Et cette plante-là, vous devrez être capable de garder sans difficulté. Donc, c'est une question du Pacifique, plutôt que la vérité hybride qui contient des gènes un peu moins solides.
Lucie Desjardins écrit qu'elle a des acariens dans ses fines herbes, pardon, nouvellement plantées dans un bac à l'intérieur d'une serre. Quel produit employer?
Ben déjà, l'eau, ce serait excellent. Vous savez que ça ne résiste pas beaucoup à l'eau, mais ça dépend où c'est placé. Mais au moins, dans une serre, habituellement, on n'a pas une planchette à s'en occuper, mais rincer, ça va déjà aider. Sinon, un savon insecticide, c'est très bien. L'huile de neem est excellent aussi. Bien diluée, c'est excellent aussi. Mais déjà l'eau en soi, c'est déjà excellent pour contrôler les orignaux.
Mu Saint-Onge, est-ce trop tard pour semer des choux raves fin juillet, début août, ou c'est préférable de semer à l'avance et installer des plants? Ça prendra l'espace où l'ail pousse présentement. D'autres conseils, s'il vous plaît?
OK, ça. Elle veut semer des choux raves pour le fin de juillet, début d'août. Ben, écoutez, si vous... C'est des choux raves, OK. Si vous les semez maintenant, ça va faire des beaux petits choux raves parfaitement comestibles. Donc, moi, je ne vois pas de problème de semer ça maintenant. Ça devrait bien, vous n'aurez pas un gros, là, peut-être. Ben, si vous laissez encore plus longtemps, peut-être, oui, mais vous aurez quand même des choux raves intéressants. Et de toute façon, tout est comestible chez cette plante-là. Même les feuilles, fait que oui, allez-y maintenant, pas de problème.
Mick Jensen, nous aimerions planter une haie le long du terrain avec notre voisin qui a beaucoup d'érables qui font ombre à cet endroit. Est-ce possible ou une clôture serait mieux?
Bon, écoutez, l'ombre, c'est l'ombre. C'est toujours un peu difficile. Et en plus, vous avez des érables. Les érables, ça ajoute une deuxième complication parce que l'ombre en soi, c'est pas si pire. Mais les racines qui assèchent le sol, qui vole tout l'eau, c'est encore bien pire. Donc, moi, j'ai peur que la combinaison, l'ombre, OK, mais racines envahissantes, ouh, ça, c'est dur. Et une haie, c'est pas comme une plante soit là, c'est une haie, c'est une dépense. Hein? Je veux pas. Vous avez dépensé de l'argent. Donc, moi, je dirais mettre une clôture dans votre cas. Ou sinon, portez votre haie vous-même. Les boutures. Comme ça, ça ne vous aura rien coûté. Parce que j'ai peur que ce soit trop sec. Beaucoup plus de l'ombre, que ce soit trop sec à cet endroit-là. Et que votre haie ne soit jamais comme vous le voulez dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous êtes mieux d'avoir une clôture qu'un peu au moins cachée avec quelques arbustes ça et là, qu'une haie qui n'est pas belle. Ça m'intéresse de voir les choses. Voilà.
Nicole Terrier-Leroux. Quel traitement faire à mes flux avant que les feuilles tournent blanc, je crois que c'est du mildiou.
Soit les flox. Flox, que vous voulez dire. Ah, ouais. C'est, de nos jours, on tape quelque chose, puis le correcteur change le mot sans avoir connaissance. Le flox. Oui, le flox est une maladie. Le flox est très souvent atteint par le blanc, pas le mildiou. Le mildiou, c'est autre chose. C'est, ben, au moins, en anglais, on dit powdery mildew, mais. Le mot mildiou en français veut dire d'autres choses que ça. Mais ça, c'est le blanc. Et cette maladie-là a plusieurs formes. Certaines de ces formes-là s'attaquent au flox. Elle dit... Bon, vous pouvez toujours commencer. C'est pas la peine d'attendre. Continuez commencez au début, puis continuez tout l'été. Traitez avec simplement de l'eau à laquelle vous aurez ajouté un petit peu de... Ah, oh, alors, évidemment, j'ai oublié le nom. Pas vu notre cuisine tous les jours. Dans une boîte orange. En tout cas, cherchez un fongicide. Alors, comment je peux pas vous rappeler? Poudre pâte, mais c'est d'autres. Quelque chose de pâte. Je me souviens pas comment. Tout le monde sait que je veux dire, sauf moi, je pense. Mais en tout cas, vous mélangez ça avec l'eau, avec un petit peu de savon, et ça devrait aider beaucoup. À prévenir, bien sûr. Parce qu'il faut prévenir. Une fois que c'est commencé, le feu est éteint. Et donc, vous ne pouvez pas rien faire.
Vanessa Lapierre, je suis en zone 1B. Je me suis procuré deux, entre guillemets, chums de deux variétés différentes, Opata et Convoy. Quand et comment bien les planter? Ils sont dans un pot de semis en ce moment. Sol sablonneux.
Les chums, juste pour ceux qui ne savent pas, ce sont des hybrides de fruitiers. Un chum, c'est un croisement entre un prunier et une cerisier, je pense, ou en tout cas, je me souviens pas, c'est des croisements. Et le résisté peut être très variable, ça dépend de ce qu'on a. Et quand même, 1B, c'est dans le très, très froid. C'est à la limite, à peu près, d'où on peut jouer des livres. Donc, j'espère que vous allez choisir un DT qui résiste au froid. Je ne dois dire que je ne connais pas bien les chums. Je n'en ai jamais cultivé. Mais les plantes au plein soleil, elles ont un sol bien drainé, c'est évident. Là où il y a un certain mouvement d'air, c'est dans un pot de semi à ce moment-là. C'est un sol sardonneux. Ça devrait faire. La plante serait mieux en plein terre, c'est certain. Et les couvrir pour l'automne, peut-être, avec du paillis, pour les faire passer l'hiver. Et c'est ça, pendant quelques années, vous allez voir, ça va bien aller. C'est ça que je ne produis pas, donc, plusieurs années. Mais éventuellement, vous allez voir des fruits, si les deux survivent, parce qu'il faut un croisement entre les deux. Voilà.
Aiden Knight, une deuxième question. J'ai regardé vos émissions sur les rosiers dans mon jardin. Des conseils spécifiques sur la variété grimpante New Down. Ils sont non greffés. Je les ai pris chez le rosier rustique. Le propriétaire m'a longuement parlé de vous et vous salue d'ailleurs.
OK. Ben, écoutez, New Down, je ne sais pas exactement où vous êtes. C'est pas mal les plus rustiques des grimpantes, des rosiers grimpants. Donc, normalement, même en zone 4B, certainement pas en zone 5B, mais en zone 4B, on n'a pas besoin de protéger, ce qui est bien parce que la protection pour un rosier grimpant, c'est quelque chose. On détache de longues, longues tiges, on les couche au sol, on les couvre de paillis, on les remonte, c'est quelque chose. Donc, la seule chose que vous faites pour cette plante-là, en espérant que ça... Moi, j'ai le genre de plante où j'achèterai un pour voir comment ça va, avant d'acheter plusieurs. Parce que, mais c'est tellement spectaculaire. Parce que la différence entre cette plante-là, ce rosier grimpant-là, et disons, un rosier ordinaire, c'est vraiment, ça fleurit longtemps, puis toute une hauteur, mais vraiment des belles grosseurs, c'est quelque chose. Donc, la protection pour cette plante-là, ce serait vraiment employer du paillis, beaucoup de paillis au sol. C'est la racine qu'il faut protéger. La tête, si jamais des dégâts, la plante va repousser de plus bas. Il faut protéger le pied, bien sûr. C'est vraiment ça qu'il faut. Évidemment, c'est un rosier, plein soleil, vraiment plein soleil, et un bon drainage, un sol assez riche quand même.
Gisèle Séguin, pardon. Je vois qu'on recommande de garder une couverture flottante sur les plantes de carottes, entre parenthèses, contre la mouche de la carotte. Ou sur les courgettes contre les perceurs de la courge. Est-ce que ce sont des nouveaux insectes? On enlève les couvertures quand? Seulement quand il y aura des fleurs pour faire place aux pollinisateurs?
Oui, effectivement. Ce sont des protections contre ces insectes-là. La mouche de carotte n'est pas du tout nouveau. Ça fait longtemps que la mouche de la carotte. Et habituellement, vous ne le trouvez pas dans les premières années d'un jardin. Et une fois que ça découvre votre jardin, ça revient tous les ans. Donc, c'est une façon de le prévenir. Dans le cas de la perceur de la courge, oui. Moi, d'ailleurs, je n'en ai jamais vu encore. C'est si nouveau que ça au Québec. On commence à voir peut-être il y a 3 ans. C'est un insecte qui vient plus au sud, qui migre vers le nord parce que notre climat se réchauffe. Donc, cet insecte-là, c'est nouveau. Et il pond un œuf à la base de la plante qui vide l'intérieur de la tige et donc la plante va faner subitement. Donc, oui, ça pourrait être intéressant. Dans le cas du premier, la carotte, il faut laisser la carotte couverte en tout temps, vous savez. On ne mange pas les fleurs de carotte. La carotte fleurit pas la première année, de toute façon. C'est une vie annuelle. Si la carotte fleurit, normalement, on a la récolte avant ça. Mais si la carotte devait fleurir, ce serait la deuxième année. Donc, aucun problème, là, c'est une barrière en permanence. Et comme il y a plus qu'une génération, la mouche, bah, c'est peut-être une bonne chose. Par contre, c'est pas la même chose dans le cas de notre deuxième insecte. Là, vous avez un insecte qui est là au printemps, mais il faut absolument découvrir les plantes de courge, de courgettes, de citrouilles, peu importe. Il faut les découvrir pour que la pollinisation ait lieu. S'il n'y a pas de pollinisation, il n'y aurait pas de fruits. Et je pense qu'on cultive tous des courges pour avoir des courges. Hein. Donc oui, là, il faut absolument lever la couverture. La bonne nouvelle, c'est que il y a deux générations, des fois trois, deux d'habitude générations de la perceuse, perceuse de couche. Mais habituellement, la première génération est la plus dommageable. La deuxième, ça n'a pas le temps de faire un grand effet. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Pour cet insecte-là, une fois que la plante est en fleur, la première génération n'est plus là. Et on peut enlever la protection et vous ne faites pas votre séquelle. Donc, moi, je dirais, une fois que vous voyez des boutons de fleurs, enlevez le couverture flottante. Et ça devrait bien aller.
Sylvie Lalonde écrit qu'elle a commandé 3 plantes bleuets qu'elle a plantées dès la réception au début du mois de mai. La semaine dernière, le feuillage de 2 des plants est devenu brun et sec. La plupart des petites tiges sont encore vertes. Est-ce qu'il y a de quoi à faire pour les sauver?
OK, dans un cas semblable, transplantation, c'est toujours un peu un choc. Que voulez-vous? Ça se peut que ce soit juste ça, et même je soupçonne que ce soit juste ça. La plante n'a pas plus le bon bord quand vous l'avez transplantée, tout simplement. Le fait que les tiges sont vertes est une excellente nouvelle. Ça veut dire que les tiges sont encore en vie. Dans ce cas-là, moi, je dirais, enlever les feuilles, bon, si elles se détachent tout seul, enlever-les, mais autrement attendre. Laissez faire. La plante devrait retiger, soit du haut ou du bas, mais normalement, ça va repousser. Vous allez avoir donc de belles tiges. De toute façon, ce n'est pas avant la troisième année où vous allez avoir des fruits à manger. Donc, la plante aura le temps de récupérer. Et vous devrez trouver, ça va bien avec ça.
Claire Messier, mon rhododendron paraissait mort au mois d'avril. Je l'ai déplacé et maintenant, il fait des gros bourgeons. Est-ce pour la floraison de l'année prochaine, en fait?
Oui, oui. Vous savez que les rhododendrons font des fleurs, les gros boutons, et ça reste gros tout l'hiver pour fleurir l'année suivante. Donc oui, les boutons qui sont produits maintenant, c'est les boutons pour l'an prochain. Au moins que votre plante n'est pas fleurie. Mais le fait que vous l'avez transplanté, moi, je crois que c'est vraiment des nouveaux boutons. Et c'est l'an prochain que ça va fleurir, oui.
Agnès Morin-Chartrand. J'ai un gros hibiscus vivace. Entre ventrages, j'oublie le nom. Elle donne des grosses fleurs qui sont l'envie de beaucoup de mes voisins.
Bon.
Ça, c'est plus un commentaire, de ce que je comprends.
Mais un peu. Vous pouvez bouturer, hein? Si vous voulez partager ça avec vos voisins, prenez des tiges, enlevez les boutons à l'extrémité et faites-les enraciner. Ça fait un beau cadeau et vos voisins vont l'apprécier. Et en plus, comme ça réussit très bien, ça veut dire que cette variété-là est bien adaptée à vos conditions. Parce que l'hibiscus, c'est comme variable. Ça réussit pas partout. Donc, vous avez une variété qui semble être contente. Partagez.
Lisa Ménard, est-ce qu'on devrait ajouter un genre de paillis dans nos plantes d'intérieur, qui sèchent trop vite, entre parenthèses, et qui ont besoin de rester humides? Si oui, quel type?
On peut le faire, il n'y a pas de problème. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un paillis acheté comme paillis, parce qu'on vend des paillis. Ça peut être aussi n'importe quoi, des résidus que vous utilisez, des feuilles déchiquetées, des choses comme ça. Pas de problème, pas du tout. Sauf que, je me demande si c'est pas mieux, tout en faisant peut-être ça, mettre n'importe dans un pot plus gros. Alors, si ça sèche si vite que ça, je crois bien que votre plante n'a pas assez de place pour ses racines et que le sèchement si rapide, c'est la vraie cause. Tant qu'à faire, aussi bien trouver la solution au vrai problème que d'essayer de le cacher. Donc, ce serait aussi bien de remporter des impôts plus gros pour donner plus de place pour les racines. Et là, vous aurez besoin de moins arroser. Alors, on peut toujours mettre un paillis par la suite aussi.
Sonia Desrosiers écrit qu'elle n'a pas de questions, mais qu'elle voulait seulement te dire merci de prendre encore du temps pour faire des lives.
Ah ben, je fais ça. Vous savez que je fais ça tant que je suis capable de le faire. Tout le monde sait que j'ai des problèmes de santé. Et que je ne pourrais pas faire ça éternellement. Mais moi, je trouve ça encourageant. Je suis encore capable de le faire. Fait que oui, je continue. c'est un stimulant pour moi. Donc, merci beaucoup de votre intérêt. Moi, j'essaie de faire. Tant que je suis capable, je vais là pour vous aider chaque semaine.
Agnès Morin-Chartrand, les plantes sont grosses et prennent de l'ampleur. Je sais que je peux la diviser au printemps. Comment faire pour la partager sans la faire mourir? Elle ne dit pas quelle plante.
Est-ce que c'est... Elle nous a déjà parlé. C'est quoi la première que... Oh, hibiscus vivant, c'est elle qui a parlé d'hibiscus.
Ah, c'est ça, oui, oui.
Divisez pas maintenant. Cette plante-là, on peut diviser, c'est sûr. Et c'est une plante qui n'aime pas trop quand on vient fouiller dans ses racines. Donc, non. Non, si vous voulez partager sans la faire mourir, faites ça vraiment tôt. Est-ce que ce n'est pas sorti, peut-être? Si ce n'est pas encore sorti à Québec, dans le fond, ce ne serait pas sorti. Peut-être chez vous aussi. Oui, vous pouvez diviser là. Mais il faut le faire avant que ce soit en feuille. Si c'est déjà en train de pousser, pas cette année-ci, vous avez mieux d'attendre l'an prochain. Parce qu'une fois qu'elle est partie, il ne faut pas faire des choses pour la ralentir. Mais si vous le faites avant ça, la plante aura le temps de le récupérer et même fleurir la première année.
Très rapidement, il reste quelques secondes. Claire Messier, j'ai semé des cossias, entre parenthèses, Bassia, Scorpiria, et elles prennent beaucoup de temps à pousser. J'ai 4 têtes sur 12 graines qui poussent. Avez-vous un truc à me donner? Très rapidement.
Donnez-leur beaucoup de chaleur, pas de chaleur, beaucoup de soleil et beaucoup de fraîcheur. Donc, dehors, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est une plante qui aime ça, ces conditions-là. Et pas trop arrosée, quand même. Une plante qui tourne à la sécheresse.
Eh bien, c'est déjà terminé, mon cher Larry.
Ben, merci beaucoup, Michel, encore. Merci, Michel Bédard, pour son travail, pour m'aider. Merci aussi à Marlène Baudelot, qui s'occupe de ses cas. Il y a FM, de son côté. Moi-même, Larry Hodgson, je vais être de retour la semaine prochaine, mercredi à 10h. Et entre-temps, ben, peut-être vous allez pouvoir mettre vos plans dehors au cours de la semaine qui s'en vient. Donc, tant mieux pour tout le monde. On va se dire à la semaine prochaine. Bon jardinage.
Bon jardinage. Bye-bye. Et c'est
un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Mercredi 17h à CKIA 88.3 et CKIAFM.org.
Culture, c'est votre grand rendez-vous culturel et épicurien en compagnie de Julie Réaume. Musique, entrevue avec des grands noms, des artistes de la relève, arts visuels, arts de la scène, choix de sortie, grands événements, bouffe et plus encore. Culture, c'est à ne pas manquer tous les jeudis, 11h, sur CKIA 88.3 et CKIAFM.org. On vous y attend.
Espace Région de Québec, un organisme en prévention de la violence faite aux enfants, célèbre ses 30 ans cette année. Pour cette occasion, vous êtes invité à une fête familiale le dimanche 5 juin au domaine de Maizeray. Plusieurs prix de présence et activités vous attendent. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les familles. Pour connaître les détails, rendez-vous sur la page Facebook d'Espace Région de Québec.
Savoir sur la programmation de CKIA, pour être au courant des événements culturels et communautaires de Québec, visitez le CKIAFM.org ou branchez-vous sur Facebook ou Twitter. Vous Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Salut, moi c'est Karim. J'ai fait des études en musique et je réponds présent.
Je m'appelle Marie, j'ai complété un bac en mathématiques et je réponds présente.
Je m'appelle Maxime, moi j'ai étudié en littérature anglaise et je réponds présent.
Enseignez à nos jeunes, bâtissez l'avenir. Soumettez dès maintenant.